Heureux de vous retrouver, les frères et sœurs, vous nous avez manqué. Même si on a passé un temps magnifique là-bas, vraiment très agréable, de détente, de joie, beaucoup d'eau et de soleil, mais aussi on a pu voir l'église évangélique d'Ajaccio qui se réunit tous les dimanches de l'année. Et voilà, et ils ont eu quelques difficultés, un manque de pasteurs, mais ça se remet doucement et c'est bien de voir des frères et sœurs là-bas aussi, Corse. Cette île si un peu reculée, ils ont leur personnalité vraiment à part, même dans la foi. Et aussi, c'était bien de pouvoir témoigner à la famille qu'on voit que tous les 2 ans. Et il y a tellement qui ont besoin d'entendre l'évangile, surtout quand on vieillit, on les voit chaque année s'approcher un peu plus de la fin. Ce matin, j'aimerais commencer avec une parole du Seigneur Jésus-Christ dans Jean 14. Verset 1, où Jésus a dit: Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Et dans cette parole, il montre bien qu'il est Dieu, puisqu'il se met à égalité avec Dieu, mais il nous invite à croire. Et j'aimerais parler ce matin du mystère de l'incrédulité. Ça a quelque chose de mystérieux parce qu'on se demande toujours pourquoi il y en a qui croient au Seigneur Jésus, je veux dire croire dans le sens chrétien, et certains qui ne croient pas. Quand je me suis tourné vers le Seigneur, après avoir entendu l'Évangile, j'avais 19 ans environ, j'étais complètement athée, vraiment j'ai entendu le message et j'ai accepté le Seigneur de tout mon cœur, la vie de Dieu est rentrée en moi et m'a changé. Mais j'avais des amis là, des potes. Et on se voyait tout le temps, le week-end, et on faisait plein de choses ensemble. Et alors j'ai voulu partager ma foi nouvelle avec eux. Je leur ai dit, il faut que vous sachiez ce qui m'est arrivé. C'est incroyable, c'est extraordinaire. Alors ils étaient très curieux. Et puis je les ai même réunis, je me souviens, j'ai fait une mini-église. C'était dans le salon d'un des copains. Le vendredi soir, on buvait de l'alcool et on jouait aux cartes en fumant, je ne sais pas combien de cigarettes. Et j'ai dit, cette fois-ci, on va faire différent. Alors, d'accord, alors ils n'avaient pas trop le choix, en fait. Je les ai un peu forcés. Et j'ai mis des chaises comme une église, j'ai mis une table. Et là, j'aurais expliqué l'évangile. C'est comme ça que j'avais vu dans l'église. Donc, je me suis dit, il faut que je fasse pareil. Alors, ils ont été un peu secoués. Mais ils ont été troublés, effectivement. Mais ils ne sont pas forcément devenus croyants. La plupart, je ne sais pas où ils sont, d'ailleurs. Je les ai perdus de vue, on s'est perdus de vue. Et je me suis toujours demandé pourquoi moi j'ai cru et eux ils ont entendu aussi, pourquoi ils n'ont pas cru, mon meilleur copain de l'époque n'a pas cru, qu'est-ce qui s'est passé? Quand on connaît les bontés de Dieu, la bonté de Dieu, l'amour de Dieu, la perfection de Jésus-Christ, on se demande mais comment ne pas croire? Dieu est si bon! Il y a un message que j'aime beaucoup aussi partager, c'est pourquoi fuir celui qui nous aime? Dieu nous aime. Et pourquoi le fuir? C'est absurde, c'est idiot. Quelqu'un qui vous aime, qui veut vous bénir, vous donner plein de choses et vous le fuyez. Et je n'arrive pas à comprendre l'incrédulité, être incroyant. Pourtant, je l'étais moi-même, hein, très incroyant. Mais je me dis, pourquoi il y a tant de gens qui ne croient pas, particulièrement en France? Et les croyants et les incroyants se regardent souvent avec circonspection ou même avec mépris. Les croyants, souvent dans nos églises, dans nos milieux, on appelle les incroyants les inconvertis. Personnellement, j'aime pas trop ce mot. Je ne trouve pas ça gracieux. Alors, c'est une vérité, ces personnes ne sont pas converties. Oui, ils sont inconvertis, mais je trouve ça manque de grâce un petit peu. Mais il ne faut pas croire que les incroyants sont plus gracieux avec nous, hein. Nous, on est appelés des gens crédules. Oh, c'est des crédules, ils croient n'importe quoi, ils n'ont pas réfléchi. Ce sont des gens naïfs, ils sont bêtes. Chrétiens et crétins, hein, c'est pas loin. Mais c'est une erreur de se regarder comme ça avec mépris. L'orgueil, le mépris, hein, n'avance rien. Et en tant que chrétien, on doit voir que des incrédules vont devenir croyants. On est les premiers à pouvoir le dire. Dans les évangiles, il y a des cas quand même extraordinaires d'incrédules qui deviennent croyants. il y avait ce démoniaque, par exemple. C'était quelqu'un, même, il était totalement perdu pour la société. Il vivait nu dans des cimetières. Il était rempli de démons. Il criait, il vivait la nuit. Je ne sais pas si vous imaginez, vous dites, est-ce que c'est possible? Oui, ça existe, hein, des personnes comme ça. Et on avait essayé de l'attacher une fois, tellement il était fou furieux, et il s'était défait, il avait une force herculéenne. Et Jésus est allé exprès voir cet homme. À un moment, il a demandé au bateau, accosté, là, sur cette plage, et je vais aller au cimetière, je vais voir cet homme. Et cet homme a accouru devant le Seigneur, parce que les démons l'ont poussé là, et ils ont dit, ne nous tourmente pas! Et Jésus a dit, sortez de cet homme. Et cet homme a été délivré, et aussitôt, il est revenu dans son bon sens, et il a dit, Seigneur, je veux te suivre. Cet homme qui devait parler par borborygme, crier comme un monstre, d'un seul coup, il se met à parler normalement, à dire, Seigneur, je veux te suivre. Mais il y a aussi les frères de Jésus. On ne pense pas toujours aux frères de Jésus. La Bible nous en parle, l'Évangile nous dit qu'ils ne croyaient pas en lui. Et c'est vrai que ce n'est pas évident. Vous êtes élevé avec quelqu'un, avec votre frère, il était l'aîné, probablement, et un jour, vers 30 ans, votre frère quitte la maison. Il a travaillé comme charpentier avec le papa. Il quitte la maison et puis un jour, vous entendez parler, oui, il paraît que ton frère Jésus, c'est le Messie. Mon frère Adam, le Messie, ça va être quelqu'un d'extraordinaire, mais c'est pas mon frère. Et ils avaient beaucoup de mal à le croire. Et Jésus est revenu plusieurs fois à Nazareth et les gens ne croyaient pas. Mais non, c'est le fils du charpentier, qu'est-ce que tu nous racontes, c'est pas le Messie. Pourtant, Jésus était bien le Messie. Ses miracles l'ont prouvé, ses paroles. Et c'est seulement après sa résurrection, quand ils ont vu Jésus vivant, ressuscité, qu'ils sont devenus croyants. Et on les retrouve dans le livre des Actes et dans les Épîtres. Et puis il y a le troisième cas, le fameux Saul de Tarse. Alors lui, j'aime beaucoup parce que c'était un ennemi des chrétiens, Saul. C'était un juif orthodoxe, hyper orthodoxe, et son but, c'était d'arrêter la secte chrétienne. Pour lui, les chrétiens, c'était une secte juive qui s'était égarée en suivant un démoniaque, un fou qui s'appelait Jésus. Et donc, il fallait les arrêter et même les tuer, les éliminer, parce que chez les juifs orthodoxes, il y a certaines personnes qui sont très radicales. Récemment, en Israël, il y a eu un rabbin orthodoxe qui a été mis en difficulté parce que dans un discours, il disait « Si nous suivons les enseignements de Maïmonide, qui est un grand rabbin du Moyen-Âge, eh bien, si quelqu'un est chrétien, il doit être tué parce qu'il est idolâtre. Parce que pour les Juifs, nous croyons en plusieurs dieux. Nous disons qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et donc, c'est de l'idolâtrie à leurs yeux et il faut les tuer. » Donc il a dit ça dans un discours. Alors il n'a pas encouragé au meurtre, c'est pour ça qu'il a eu des ennuis, mais il a dit, après il a reculé, il a dit non, c'était juste théorique, rhétorique, mais en fait c'est ça qu'il pense. Nous ne croyons qu'en un seul Dieu, nous ne sommes pas idolâtres, il n'y a pas trois dieux dans le christianisme, il n'y a qu'un seul Dieu, mais qui se manifeste en trois personnes. D'ailleurs on le trouve comme ça aussi dans l'Ancien Testament. Dieu se manifeste par l'ange de l'Éternel. Et son esprit est mentionné, même dans la Genèse chapitre 1, l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, nous n'avons rien de différent, mais aux yeux de certains groupes, nous sommes idolâtres. Et Saul faisait partie de cela. Et un jour, sur le chemin, sur la route de Damas, Jésus s'est manifesté d'une façon spectaculaire. Une grande lumière lui est apparue. Il a entendu une voix qui a dit « Pourquoi me persécutes-tu » Et c'était le Seigneur Jésus qui lui parlait directement. Il est tombé de cheval et tout le monde est tombé autour de lui. Et ils ont dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Et lui dit « J'ai entendu la voix de Jésus qui m'a dit « Pourquoi me persécutes-tu » Et là, Saul a compris qu'il était en train de s'attaquer au Messie. Ce Messie en qui il voulait croire. Mais il s'était trompé, il était dans l'erreur totale et il voulait tuer les disciples de son Messie. Et il est devenu chrétien, il a été baptisé et il est devenu un grand apôtre, l'apôtre Paul, qui est mort pour sa foi. Alors, des incrédules, des ennemis de l'Évangile peuvent devenir chrétiens. Heureusement, donc on ne doit pas les mépriser, on ne doit pas les regarder en disant « Oh là, c'est un inconverti ». Non, c'est peut-être un futur croyant. Mais c'est vrai qu'il y a des incrédules endurcis et bornés, qui ne veulent rien savoir, rien entendre, on va en parler. Et puis il y a des croyants qui sont croyants pour un temps, mais comme dit Jésus, ils n'ont pas de racines et ils laissent tomber la foi. Combien de gens dans notre pays disent « Ah, quand j'étais enfant, j'avais la foi. » Puis j'ai perdu la foi le long du chemin, comme si c'était, vous savez, une clé ou je sais pas quoi. J'ai perdu la foi. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh oui, c'est qu'ils n'avaient pas, au départ, la foi enracinée dans l'Écriture, dans la Bible, dans le Seigneur. C'était une foi qui suivait sans comprendre. Alors pourquoi suis-je devenu croyant et pas d'autres? On peut se demander tous, un petit peu, se poser la question. Il y a deux réponses qui sont données à cela. Pourquoi il y a des croyants et pas d'autres? Certains disent c'est parce que Dieu l'a voulu ainsi. C'est-à-dire, Dieu a décidé que toi, tu serais croyant, et puis que toi, tu ne serais pas croyant. Alors ça nous paraît vraiment impossible quand on regarde le Dieu de la Bible. Parce qu'il est dit, il est écrit noir sur blanc que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Donc c'est pas possible que Dieu ait décidé que toi tu sois croyant et que ton voisin ou ton ami ne le soit pas. Dieu veut que tous. Et il a donné son Fils unique sur la croix afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Et Jésus est mort pour tous les hommes, c'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Donc tous peuvent être croyants. Tous peuvent être sauvés. Jésus s'est manifesté à tous, se manifeste à tous d'une façon ou d'une autre. Alors l'autre réponse, pourquoi il y en a qui sont croyants et pas d'autres? Ben, c'est parce qu'il y en a forcément qui acceptent la lumière de Dieu dans leur vie et d'autres qui la refusent. Il n'y a pas d'autre solution. S'il y a des gens qui ne croient pas, c'est qu'ils ont refusé pour le moment. Alors comment différencier le croyant du non-croyant, de l'incrédule? Est-ce que les croyants sont des gens très justes, très moraux, et les incroyants sont des pourris? Ben non, c'est ça qui est difficile. Vous avez des gens croyants qui ont une vie, ou qui ont eu une vie mauvaise, et puis vous avez des incroyants, des incrédules complets, qui croient ni en Dieu ni en diable, mais ils ont une vie morale, ils font du bien, ils sont généreux. Et c'est troublant parce que eux, ils se disent, mais moi je suis très bien comme ça, je n'ai pas besoin d'avoir la foi. Et surtout quand je vois les soi-disant chrétiens, comment ils se comportent. Chaque année où je vais dans mon village en Corse, j'essaie de parler de la foi parce que les gens savent que je suis pasteur et donc avec les personnes âgées, beaucoup sont très catholiques, très enracinés dans le catholicisme. Mais il y en a de moins en moins parce qu'il y a vraiment des mauvais témoignages. Là, le dernier prêtre en date dans notre village, c'était un Polonais. Parce qu'il n'y a pas de Corse, hein, suffisamment de prêtres corses. Et donc, il est venu de Pologne, il parlait bien français. Et la chose, c'est qu'il était accompagné de deux dames polonaises. Et elles venaient le voir régulièrement dans le presbytère, au point que ça a fait scandale. Et ils ont dû, l'évêque a dû le virer et le mettre dans une autre ville, à Sartène. Et à Sartène, double scandale. Les femmes l'ont suivi, les deux polonaises étaient avec lui, et apparemment, ils vivaient ensemble. On ne sait pas comment ça se passait, on ne veut pas le savoir. Et il a dû être déplacé encore une fois dans le nord de la Corse. Mais je lui dis, c'est pas possible. Comment peut-on s'appeler prêtre? Comment peut-on continuer et faire des choses pareilles? Ensuite, ils vont marier les gens en disant, ah, le mariage, la sainteté du mariage. Eh bien, faites-le alors, si vous croyez à la sainteté du mariage. Mais ne vivez pas en concubinage ou dans l'immoralité, dans la débauche. Mais de moins en moins de gens vont croire, ça c'est sûr, hein, si les chrétiens n'ont pas un témoignage minimum. Mais ce n'est pas quand même la moralité qui fait un croyant. Ce n'est pas la moralité. La Bible dit pourquoi il y a des gens incroyants et pourquoi il y a des gens croyants. Il y a trois versets principaux que j'aimerais citer. 2 Corinthiens 4, versets 3 et 4. Et ça n'a pas de rapport forcément avec la moralité. 2 Corinthiens 4, versets 3 et 4. « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. » Il y a un aveuglement. Par qui ? Par le Dieu de ce siècle. C'est qui le Dieu de ce siècle ? C'est Satan, l'ennemi de Dieu. Même si on ne croit pas en Satan, il est là. Et il aveugle les gens sur l'évangile. C'est-à-dire que quand vous parlez de l'évangile, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu nous sauver. C'est ça l'évangile, le cœur de l'évangile. Il est mort pour nos péchés et il est ressuscité. Mais il y a plein de gens, ça ne les intéresse pas du tout. Mais franchement, ça les laisse totalement indifférents. Même, s'il vous plaît, parlons d'autre chose, mais l'évangile, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a un aveuglement par le Dieu de ce monde. Le Dieu de ce monde leur dit, mais il y a des choses beaucoup plus intéressantes que l'évangile. Il y a le match de rugby, la coupe du monde de rugby, mais tu ne peux pas rater ça. La coupe des champions au foot, tu ne peux pas rater ça. C'est fondamental dans ta vie. Et ces personnes sont persuadées que ces choses sont fondamentales, mais que l'évangile, ça n'a pas d'importance. Pourtant, ils vont mourir un jour. Et quand ils vont mourir, le match de foot ne va pas les avancer. Hein. Quand ils vont mourir, ils vont rencontrer Dieu. Qu'est-ce qu'ils vont dire à Dieu ? J'ai regardé la télé. Ben oui, mais tu es pécheur. Tu as des péchés. Qu'est-ce que tu as fait pour tes péchés, pour ton âme, pour sauver ton âme ? J'ai fait de mon mieux. Oui, mais est-ce que tu as cru en Jésus-Christ, en l'Évangile ? Ils ne pourront pas être sauvés, ces personnes-là. C'est dramatique. Ils sont aveuglés. Ils ne voient pas que l'évangile, c'est le salut de l'âme. C'est la promesse qu'on peut être sauvé par la foi. Qui que l'on est, qui que l'on soit, qu'on soit un criminel ou qu'on soit quelqu'un de très moral, on peut être sauvé par la foi en Jésus-Christ. Jésus a dit, hein, « Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme ?» Vous pouvez être un super cadre, un super financier, vous pouvez être un homme qui amasse de l'argent, vous pouvez être quelqu'un qui amasse, qui fait collection de toutes sortes de choses, quelqu'un qui connaît tout sur tout, je ne sais pas, qui amasse les diplômes. Mais si vous avez perdu votre âme, c'est catastrophique. Parce que quand vous allez mourir, vous serez perdu pour l'éternité. Et aujourd'hui, combien négligent leur âme ? On est dans la gym, le sport, le yoga. Alors là, on y va. Là, c'est tout le monde est un club de gym, tout le monde se bronze. Bon, moi, c'est le soleil, mais tout le monde va dans des stations, des cabines de bronzage. Le corps. Le corps est important. Dieu nous a fait un corps, il faut bien s'en servir et bien le protéger. Mais l'âme est plus importante parce qu'elle est éternelle. Le corps, nous le savons tous. Il pourrit dans la terre quand on l'enterre. Il disparaît en poussière. La Bible le dit. Hein? Il retourne à la poussière. Mais l'âme, la Bible le dit, elle retourne à Dieu. Elle est éternelle. Et quand on est aveuglé, on ne voit pas. Et c'est terrible. Nous devons, en tant que chrétiens, en tant que croyants, prier. Parce qu'il y a un aveuglement du diable, hein, sur les incroyants. Ils sont aveuglés. Nous devons prier que leurs yeux s'ouvrent, qu'ils réalisent. Quand on est venu à la foi, je pense que c'est ça qui nous est arrivé. Hein. À un moment, on a dit, ah, mais je suis perdu. Mais Jésus est le sauveur. Mais il y a un Dieu. C'est comme si on découvrait, alors qu'on le savait pourtant intellectuellement. Mais il y a quelque chose, une révélation de Dieu qui s'est faite. Et la prière est très importante. Le deuxième verset sur l'incrédulité, c'est dans Romains chapitre 1. Le mystère de l'incrédulité, versets 18 à 21. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, dans la création. Ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu, ils ne l'ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Là, c'est l'auto-aveuglement, ce n'est plus le diable, là, c'est soi-même. Ils ont la vérité, mais ils la retiennent, ils la cachent. Ils se mentent à eux-mêmes. J'entends souvent en France, « Moi, je ne crois que ce que je vois. » Vous avez déjà entendu ça ? Moi, ce que je vois, je crois, mais Dieu, je n'ai pas vu. Jésus, je ne l'ai pas vu. Le Saint-Esprit, je ne l'ai pas vu. Donc, j'y crois pas. Même la vie éternelle, on ne peut pas la voir. Donc, après la mort, on est bien mort et c'est fini. Beaucoup ont ce raisonnement assez limité, mais auquel ils tiennent beaucoup. Pourtant, il y a des choses invisibles qui sont là. La conscience, par exemple. Notre conscience de nous-mêmes, notre conscience du mal qu'on fait, du bien, du mal, ça se voit pas. Il y a pas, on peut pas, c'est pas, il y a pas un organe de la conscience. Hein. C'est pas le foie, le cœur, le cerveau. Non, la conscience est quelque chose d'immatériel. Pourtant, c'est là et ça nous parle et ça, c'est même presque extérieur à nous, hein, d'une certaine façon. Quand la conscience nous accuse, c'est comme si c'était quelqu'un en nous qui disait, hey, ne fais pas ça, c'est injuste. Donc, il y a des choses qu'on ne voit pas qui existent. Mais il y a aussi tout ce qu'on voit. Je ne crois que ce que je vois, mais qu'est-ce que dit ce passage? Regarde la création, regarde les œuvres de Dieu, mais ouvre un peu les yeux. Il y a un Dieu intelligent, un Dieu créateur. Il y a un grand astronome qui a écrit un livre, et plusieurs livres même, et fait des conférences sur l'idée qu'il y a un être intelligent. Il dit, je ne suis pas chrétien, je ne suis même pas spécialement croyant, mais pour moi, il n'y a pas d'autre solution pour l'univers qu'il y ait quelqu'un qui a créé tout ça. Et il dit, les probabilités pour qu'il n'y ait pas quelqu'un, pour que la vie telle qu'elle est et l'univers tel qu'il est soit apparu comme ça, spontanément, sont aussi petites que si vous donnez un Rubik's Cube à un aveugle qui ne l'a jamais fait et qui l'arrive du premier coup. Alors un Rubik's Cube, pour ceux qui ne savent pas, hein, c'est ces petits carrés avec des couleurs. Il faut tourner jusqu'à ce que vous ayez une couleur unie de chaque face. Si vous n'avez jamais fait le Rubik's Cube et que vous êtes aveugle, quelles sont vos chances d'arriver par hasard? Zéro. Hein, enfin, c'est-à-dire, vous pouvez essayer pendant 3 milliards d'années, hein, mais il y a très peu de chances que vous y arriviez. Eh bien, il y a autant de chances, selon les calculs de cet astronome, hein, pour qu'il y ait eu la vie sur la Terre. C'est-à-dire, il voulait nous dire par là qu'il fallait une intervention. Quand vous regardez les arbres, les plantes, les animaux, ils sont tellement extraordinaires, tellement variés. Récemment, il y avait un reportage sur les animaux des fonds marins. Mais vous avez des êtres, on dirait des lampadaires, hein, qui se baladent sous l'eau à 1000 mètres de profondeur. Il n'y a pas de lumière, il n'y a rien, mais eux, ils sont tout éclairés. On dirait même ils ont des lumières qui courent comme ça, chut, comme dans les nightclubs ou je ne sais pas quoi. Mais ils sont extraordinaires, ces animaux. Mais ils sont uniques en plus. Et chacun est parfaitement adapté là où il est. Il y a un créateur. Mais il faut ouvrir les yeux, il faut le reconnaître. Mais quand on est incrédule, on se ment à soi-même, on cache la vérité. Et du coup, on est inexcusable après, hein. Mais heureusement, on peut changer. Il y a ceux qui disent, je suis cartésien, moi. Descartes, la France, carré. Eh bien, Descartes était un croyant, quelqu'un qui croyait beaucoup en Dieu. Et même un de ses livres, qui est moins connu que le Discours de la méthode, mais il s'appelle Méditation sur la philosophie première. Dans ce livre, il démontre, ou son but, est démontrer l'absurdité des sceptiques absolus, qui ne croient en rien. Et il développe trois preuves philosophiques de l'existence de Dieu. Descartes, son but c'était de démontrer que Dieu existe aux savants de son époque, aux sceptiques de son époque. Alors, vous voulez être cartésien? Ben allons-y. Soyons tous cartésiens. Soyons tous croyants comme Descartes ou Pascal. Le troisième passage sur les incrédules, c'est dans Jean 3 et c'est le plus imparable, le plus terrible quand on est incroyant. Ce sont les paroles du Seigneur. Jean 3, 19. Ce jugement qui va tomber, hein, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Ça me fait penser à ces incrédules, ces incroyants qui font du bien autour d'eux. Et on sent qu'ils veulent faire du bien et c'est généreux. ils sont pour la justice, ils ont un idéal de justice. Hein. Il y a beaucoup de gens qui essaient, qui poursuivent une utopie, mais en tout cas, ce qu'ils cherchent, c'est la justice. S'ils la cherchent vraiment, s'ils cherchent le bien, ils vont tomber sur Jésus-Christ, parce que la justice, c'est lui. Personnifié, la perfection, la vérité, le chemin, la vérité, la vie, c'est Jésus-Christ. Et ils vont venir à sa lumière. La lumière est venue nous éclairer. Maintenant, l'incrédule, borné, la lumière va l'éclairer et il va préférer les ténèbres. Il dit, non, je préfère les ténèbres. Pourquoi ? Parce que dans les ténèbres, je peux me cacher. Et c'est vrai que quand on est incrédule, moi j'étais athée, c'est une bonne façon de se cacher, de ne pas croire en Dieu, de ne pas se remettre en question. Ah mais moi je suis comme ça. Voilà, j'ai mes défauts. C'est comme ça, il faut m'accepter tel que je suis, j'ai mes défauts. Mais tu te remets jamais en question ? Ben, non, je suis comme ça. Mais tu veux pas changer ? Mais on peut pas changer. On est né comme ça, c'est tout. Toi, tu es comme ça, moi, je suis comme si. On change pas. Et il y a ce refus de changer, ce refus de se remettre en question, de laisser la lumière de Dieu nous pénétrer dans notre âme. Il se persuade qu'on ne peut pas changer. Mais en fait, on peut changer. Lorsque Dieu vient dans notre vie, il y a un changement profond qui se passe. C'est la nouvelle naissance qu'on a chanté tout à l'heure. Tu peux naître de nouveau. C'est lorsque le Saint-Esprit vient, il change. Et ça ne veut pas dire qu'on perd notre personnalité. Hein. Pas du tout. On a notre personnalité qui vient des gènes de nos parents et qui vient de nos expériences aussi. Mais ce que fait Dieu, c'est qu'il nettoie, on peut dire. Il enlève de notre âme tout ce qui est sale, tout ce qui est injuste, tout ce qui est péché. Et notre personnalité devient au contraire beaucoup plus belle, beaucoup plus vraie, beaucoup plus pure. On peut changer. On n'est pas obligé de vivre dans le péché, dans l'incrédulité. On n'est pas obligé de porter son fardeau de culpabilité. Non, on peut être pardonné, on peut être sauvé, on peut être lavé. Quand on accepte la lumière, ça commence par des petites choses des fois, hein. Pour moi, ça a été justement les étoiles. Lorsque j'allais en vacances en été en Corse, le soir, je me mettais sur un mur de granit, là, et je regardais les étoiles, la voûte étoilée. On voyait la Voie lactée à l'œil nu. On voyait même les satellites passer à l'œil nu. Et je disais, mais c'est phénoménal. Toutes ces étoiles, cet univers gigantesque. Et moi, je suis tout petit, là. Et quelque part, dans mon cœur, il y avait cette lumière qui disait, mais il y a quelqu'un, là, qui a fait ça. Alors je repoussais, puis après, il y a quelqu'un, non. Et petit à petit, puis en acceptant cette lumière, Dieu a envoyé d'autres lumières. Puis il a envoyé une chrétienne dans ma classe, c'était la deuxième lumière, qui a témoigné de sa foi. Et puis il y avait mon prof de philo, qui était juif, qui nous faisait travailler des fois des versets de la Bible en cours de philo. Et Dieu a mis des lumières, et moi, je répondais quand même. Je voulais m'acheter une Bible, je disais quand même, j'ai jamais lu la Bible, j'ai été catholique toute ma jeunesse et j'ai jamais lu la Bible, pour ça que je suis devenu athée d'ailleurs. Et quand on accepte les lumières, elles se précisent, et à un moment j'ai été mis face à l'évangile de Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu te sauver. Et quand j'ai entendu ça, j'ai dit, mais moi je suis loin de ce Dieu, ce Créateur, qui il est, je ne sais pas. Bien, l'évangile me dit que je suis séparé de lui par mes fautes, mais que ce Dieu-là est venu me sauver en la personne de Jésus. Et donc, j'ai accepté Jésus-Christ comme mon sauveur. J'ai dit, Seigneur, entre dans ma vie et change mon cœur. Mon cœur était vraiment mauvais. Même si d'apparence j'étais un bon garçon, je sais très bien combien j'étais mauvais. Il y avait beaucoup de saleté dans mon âme. Et des choses qu'on ne dit pas aux gens, justement, parce que en société, on donne le change. Hein. On a l'air très bien. Ça va, oui, ça va bien. Tout va bien. Puis on s'habille bien. On a l'air. Mais à l'intérieur, il se passe des choses terribles. Et dans les foyers, dans les couples aussi, il se passe des choses terribles. En cachette, maintenant, avec Internet, il se passe des choses abominables. Les gens regardent des choses abominables. Mais quand le Seigneur vient, il enlève tout ça, il purifie tout ça. Et il nous donne comme un cœur d'enfant. Jésus a dit, il faut être comme un petit enfant. Moi, j'avais l'impression de retomber en enfance, mais dans le bon côté, avec cette innocence, cette joie pure, tout m'émerveillait. Et j'avais un amour de Dieu qui coulait là. Tout ça, ce n'est pas de la fantaisie, ce n'est pas de l'auto-hypnose ou je ne sais pas quoi. Hein. Sinon, ça n'aurait pas duré 30 ans. Hein. Non, c'est Dieu qui vient. Est-ce que ce matin, vous êtes cette personne qui a besoin de se tourner vers Dieu? Vous êtes perdu. Vous êtes jusque-là dans l'incrédulité. Vous avez fui, vous êtes aveuglé, vous êtes même menti à vous-même pour ne pas voir Dieu en face. Vous n'aimez pas quand on parle de Jésus, ça vous dérange, mais il faut faire face maintenant. Parce qu'avant la mort, il faut être prêt. C'est très important d'être prêt et vous ne le regretterez jamais. J'ai jamais rencontré un chrétien qui m'a dit « Oh, je regrette d'avoir cru au Seigneur ». Non, vraiment, hein, jamais. Pourtant, on pourrait penser que ça existe. Hein. Mais quand on croit au Seigneur, c'est tellement merveilleux d'être pardonné, d'avoir un Dieu, un berger dans sa vie, d'avoir un sauveur pour l'éternité, d'avoir cette assurance qu'après la mort, je vais au ciel, non pas parce que je suis plus moral que les autres, mais parce que Jésus a payé ma place, il a payé ma dette. Est-ce que nous sommes meilleurs que les autres, nous les croyants? Non. Est-ce que nous avons été favorisés par rapport à d'autres? Non. Dieu nous a vraiment bénis, graciés, mais il veut le faire pour tous. Il ne choisit pas certaines personnes en particulier. Nous avons vu une lumière et nous l'avons suivie, comme les mages hein, ont vu la lumière et l'ont suivie. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui va suivre la lumière de Jésus-Christ? On va s'incliner dans la prière. Celui qui agit selon la vérité vient à la lumière. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui veut agir selon la vérité? Vous voulez être franc, vous voulez être sincère, authentique, vrai. Vous ne voulez plus jouer la comédie, vous cacher derrière un masque. Mais maintenant, vous voulez être vrai avec Dieu et avec les autres. Sachez que Dieu était vrai avec vous. Il a donné sa vie pour vous, il vous a aimé comme personne. Mais maintenant, il faut l'accepter, il faut répondre à son appel pour qu'il soit votre Dieu, votre Père. Les choses ne se font pas comme ça, il faut dire oui Seigneur, volontairement, avec votre liberté. Dire Seigneur, je veux que tu entres dans ma vie et que tu me pardonnes et que tu changes ce qui doit être changé. Vous pouvez, dans votre cœur, silencieusement, faire une prière avec vos propres mots. Peut-être votre première vraie prière. Dieu vous entend. Notre Père, nous te remercions pour ton amour indéfectible, pour ta patience. Tu supportes les incrédules, les blasphémateurs, les moqueurs, et tu les aimes. Nous aussi, Seigneur, nous voulons les aimer parce que nous étions de leur nombre. Nous étions dans les ténèbres, nous étions perdus, séparés, étrangers. Mais un jour, tu nous as pardonnés. Merci, Seigneur, pour ce cadeau gratuit. Nous prions pour nos proches, nos familles, nos amis, nos collègues, nos voisins, nos concitoyens. Pour tous ceux qui sont aveuglés encore, nous prions pour qu'ils ouvrent les yeux à la lumière et qu'ils puissent faire leur choix. Seigneur, s'il y a ce matin quelqu'un ici qui n'est pas réconcilié avec Dieu, je prie que cette personne fasse le bon choix, qu'elle ne résiste pas, qu'elle ne s'endurcisse pas, mais qu'elle ouvre son cœur et soit sauvée pour l'éternité. Loué soit Dieu, Seigneur, loué sois-tu. Et nous voulons vraiment nous réjouir pour de nouvelles âmes qui viennent à toi. Au nom de Jésus. Amen.